Risa Silvia.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 10 novembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord, les titres. En RDC, combat sur plusieurs fronts contre les rebelles du M23, nouveau déplacement de population. Au Burundi, la perpétuité requise contre l'ex-premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Mise en garde sécuritaire de pays occidentaux pour le festival Nyege Nyege en Ouganda. À Madagascar, la présidente de l'Assemblée demande la suspension de la présidentielle du 16 novembre. Washington se félicite d'avoir obtenu d'Israël des pauses humanitaires quotidiennes à Gaza. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats se sont déroulés mercredi et jeudi sur plusieurs fronts au nord de Goma, au nord Kivu. Ces affrontements ont provoqué de nouveaux déplacements de populations paniquées, Mohamed Humfa.
Mercredi, des affrontements dans le territoire de Massissi ont vidé les populations de plusieurs villages de la région de Kilolirwe à une quarantaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale. Selon des représentants de la société civile, plus de 3000 nouveaux déplacés ont été signalés dès mercredi soir dans la localité de Sake, où d'autres ont continué d'affluer. Sake est considéré comme une ligne rouge par l'armée et la MONUSCO, qui ont annoncé vendredi dernier le lancement d'une opération appelée Springbok, destinée à empêcher le M23 de s'emparer de cette localité non loin de Goma. Depuis plusieurs jours, d'autres combats ont lieu dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, où l'armée engage des moyens aériens contre les rebelles. Par deux fois, une ligne moyenne tension alimentant une bonne partie de Goma a été endommagée. Après 6 mois de calme relatif, les combats ont repris début octobre dans le nord Kivu entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise, alliée à des milices armées se présentant comme des patriotes. Fin octobre, les rebelles ont pris Kichanga, une autre cité au nord de Sake, et semblent depuis étendre leur offensive vers le sud.
Au Burundi, une peine de prison à perpétuité a été requise hier contre l'ancien tout-puissant premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, accusé d'avoir voulu renverser le régime constitutionnel selon une source judiciaire et des témoins. Le général Bunyoni, 51 ans, comparaissait en compagnie de 6 co-accusés devant la Cour suprême du Burundi, siégeant dans une salle de la prison centrale de la capitale Gitega, où il est détenu. Devenu premier ministre en juin 2020, il avait été démis de ses fonctions en septembre 2022, quelques jours après que le président Évariste Ndayishimiye a dénoncé des velléités de coup d'État. Il a plaidé non coupable et a demandé sa relaxe pure et simple en invoquant un manque de preuves. Le verdict sera rendu d'ici 30 jours. 3 pays occidentaux ont émis des avertissements à l'encontre de leurs ressortissants, leur déconseillant de participer au festival de musique Nyege Nyege en Ouganda, qui devait débuter hier pour prendre fin dimanche soir, en évoquant des risques d'attentats. Des milliers de festivaliers sont attendus en périphérie de Nyinga pour le festival annuel sur les lits sur les rives du lac Victoria. Eric Manera Kidza.
Les mises en garde des ambassades des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Irlande, signalant des risques d'attentats liés aux récentes attaques attribuées à la rébellion des ADF en Ouganda, ont soulevé des préoccupations. Le président Yoweri Museveni a tenu à rassurer les participants en soulignant que les forces de sécurité protègent les événements publics programmés à l'avance, y compris le controversé Nyege Nyege créé en 2015. Les forces de sécurité ougandaises restent vigilantes, notamment après l'assassinat le 17 octobre dans le parc Queen Elizabeth d'un Britannique et d'une Sud-Africaine en voyage de noces, ainsi que leur guide. Cette attaque attribuée aux ADF a suscité des craintes dans le secteur du tourisme. Le chef présumé d'un groupe ADF accusé d'avoir mené l'attaque a été capturé début novembre avec 6 autres membres du commando tués. En juin, une attaque attribuée aux ADF avait causé la mort de 42 personnes, dont 37 élèves, dans un lycée de l'ouest du pays. En 2022, malgré une interdiction initiale du festival par le Parlement ougandais, levée ultérieurement par le gouvernement, l'édition avait attiré 12 000 participants, dont 5 000 touristes étrangers.
Des corps de personnes en uniforme militaire jonchent les rues d'Omdurman, en périphérie de la capitale soudanaise après les combats de mercredi, ont rapporté des témoins jeudi. Et l'ONU s'alarme d'une intensification des combats dans la région du Darfour au 7e mois de la guerre entre l'armée et les paramilitaires. Les affrontements se poursuivent à Khartoum et dans sa banlieue, ainsi qu'au Darfour dans l'ouest du pays, alors qu'un nouveau round de négociations parrainé par l'Arabie saoudite et les États-Unis s'est achevé cette semaine sans aboutir à un accord sur un cessez-le-feu. L'ambassade des États-Unis a exprimé de son côté sa grande préoccupation face aux témoignages faisant état de graves violations des droits de l'homme commises par les FSR, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo au Darfour. À Madagascar, la présidente de la Chambre basse du Parlement a appelé jeudi à la suspension de l'élection présidentielle de la semaine prochaine après des semaines de manifestations de l'opposition. Le camp du président sortant a déjà rejeté cette demande, la qualifiant de farfelue. John Lennon.
Christine Razana Mazoua, qui dirige un groupe de médiation chargé de trouver une issue à la crise politique, a déclaré que la situation actuelle du pays ne permet pas la tenue d'un scrutin libre et crédible le 16 novembre. Le groupe de médiation demande fermement aux autorités de suspendre l'élection, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Antananarivo. Cette suspension vise à garantir la paix et l'harmonie dans le pays où les tensions politiques ont été vives à l'approche du scrutin qui a déjà été reporté d'une semaine. Madagascar a été secoué par une bataille féroce entre le président Ange Rajoel, qui brigue un nouveau mandat, et la plupart des dirigeants de l'opposition. En début de semaine, un candidat à la présidence a été arrêté lors d'un rassemblement que les candidats de l'opposition organisent presque quotidiennement depuis plus d'un mois. Un climat politique qui inquiète et préoccupe l'Union européenne, les États-Unis et d'autres membres de la communauté internationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a accepté des pauses militaires quotidiennes de 4 heures dans le nord de la bande de Gaza à des fins humanitaires, a déclaré hier la Maison-Blanche. Le président Joe Biden précise qu'il n'y a aucune chance qu'un cessez-le-feu complet soit mis en place, Lionel Gahima.
Israël a accepté des pauses militaires quotidiennes de 4 heures dans le nord de la bande de Gaza à des fins humanitaires, a déclaré hier la Maison-Blanche. Le président Joe Biden précise qu'il n'y a aucune chance qu'un cessez-le-feu complet soit mis en place. Le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré hier à la presse qu'Israël va commencer à mettre en œuvre des pauses de 4 heures dans les zones du nord de Gaza chaque jour avec une annonce faite 3 heures avant. Il a ajouté que les Israéliens ont dit qu'il n'y aurait pas d'opération militaire dans ces zones pendant la durée de la pause pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer et aux civils de fuir le combat. Washington a aussi appelé l'armée israélienne à respecter les lois de la guerre et à éviter les pertes civiles, tout en poussant Israël à réduire son offensive et à élaborer un plan pour la suite. Pour le moment, le président Joe Biden a exclu la possibilité d'une trêve plus longue, mais s'est dit toujours optimiste quant à la libération des otages. Dans ce sens, Bill Burns, directeur de la CIA, et David Barnea, chef du Mossad israélien, sont tous les deux à Doha pour des négociations trilatérales entre les Qataris, mais rien n'a filtré de leurs discussions.
L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté ce jeudi des missiles qui se dirigeaient vers son territoire et a frappé vendredi la Syrie après la chute d'un drone sur une école dans le sud d'Israël. Le drone s'est abattu jeudi sur une école dans la station balnéaire d'Eilat sur la mer Rouge sans faire de blessés. En riposte, l'armée israélienne a frappé l'organisation qui a mené l'attaque depuis la Syrie, a-t-il indiqué sans préciser le nom de cette organisation. Israël tient les régimes syriens responsables de tout acte terroriste qui émanerait de son territoire, a-t-elle averti. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé avoir utilisé son système antimissile à très longue portée, Arrow 3, pour intercepter un projectile tiré depuis la région de la mer Rouge, les rebelles Houthis au Yémen affirmant de leur côté avoir lancé des missiles balistiques contre Israël. Mani a accusé vendredi les gardes-côtes chinois d'avoir harcelé des bateaux philippins en mission de ravitaillement en mer de Chine méridionale, notamment en tirant au canon à eau les deux pays, se rejetant la faute de l'incident. La Minute Éco, Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le gouvernement va débloquer 12 millions de dollars en 2024 pour contribuer à la construction du nouveau port en eau profonde de Banana. La première phase consiste à construire un quai de 600 mètres et 25 hectares d'espace de stockage pour une capacité annuelle de plus de 300 000 conteneurs. Le projet total, qui comprend une zone industrielle, nécessite un investissement de 1,2 milliard de dollars. La principale société africaine intégrée de paiement et de commerce numérique Interswitch Group et la société de logiciels de paiement en temps réel ACI Worldwide ont annoncé un renforcement de leur relation de 20 ans. ACI passe du statut de revendeur à celui de partenaire stratégique sur plusieurs marchés d'Afrique subsaharienne. Les partenaires de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique se réunissent à Abidjan du 27 au 29 novembre pour discuter des fonds nécessaires à la réalisation des programmes. Trois pôles énergétiques sont prévus en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Niger. 170 projets sont programmés dans l'espace UEMOA, dont la construction de 17 centrales solaires.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sofiane Diop en sélection marocaine pour la première fois.
Oui, le joueur de l'OGC Nice a été retenu pour la première fois en sélection marocaine pour des matchs éliminatoires en vue du Mondial 2026, selon la liste publiée par le sélectionneur marocain Walid Regragui. Ancien membre de l'équipe de France Espoir et de l'AS Monaco, Sofiane Diop, 23 ans, avait été sollicité par le Sénégal et le Maroc, pays de ses parents, mais a choisi de jouer pour les Lions de l'Atlas. Le Maroc doit jouer ce mois-ci face à l'Érythrée et la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Outre ces deux pays, le groupe E de la sélection marocaine compte le Congo, le Niger et la Zambie. La liste n'est pas forcément celle des joueurs qui iront à la CAN, a précisé M. Regragui, alors que la CAN débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire.
Quelques résultats en Europa League hier.
Liverpool de Mohamed Salah a été surpris sur la pelouse du Toulouse FC 3-2. Malgré ce revers, Liverpool reste premier du groupe E avec 9 points. Dans le groupe G, l'AS Rome a cédé sa place de leader au Slavia Prague qui s'est imposé face aux Roumains 2-0. Premier du groupe H, le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba l'a emporté en fin de rencontre contre Karabakh 1-0 et a quasiment assuré sa qualification en 8e. Rennes, qui a gagné à domicile contre le Panathinaikos 3-1, conforte aussi sa place de leader dans le groupe F. Enfin, l'Ajax Amsterdam a encore chuté, battu à domicile par Brighton, 2-0.
Le musée LeBron James ouvrira ses portes à Akron.
Le quadruple champion de la NBA va ouvrir son musée officiel le 25 novembre dans sa ville natale d'Akron, dans l'Ohio, selon la fondation de la famille James. Le site de la fondation décrit le home court de LeBron James comme une promenade dans la vie et l'héritage de l'enfant d'Akron, qui était un adolescent prodige et qui est devenu une superstar mondiale. Le home court va aussi proposer une expérience de narration multimédia qui offre un regard sur la vie de LeBron avec des objets jamais vus tout au long de son parcours. D'Akron à la NBA, aux Jeux Olympiques, aux affaires, à la philanthropie et au-delà, les photos publiées sur les médias sociaux montrent une série de télévision avec des moments forts de la carrière de James, une sélection de trophées et de souvenirs, y compris de ses années de football américain. En février dernier, LeBron James a dépassé Karim Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le procès pour le meurtre de Jenna Dina Bongo Ibwanga, étudiante gabonaise de 17 ans, retrouvée morte dans une rivière en mars dernier, a débuté mercredi à Karabük, dans le nord de la Turquie. En seul accusé, un homme de 55 ans était à la barre alors que plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue. Yacouba Ouédraogo a joint à Libreville au Gabon Guy Serge et Jessica Ibunaga, les parents de l'étudiante gabonaise assassinée en Turquie.
Bon, les indices proprement dits, non. Mais seulement ce que nous savions, nous, depuis ici à Libreville, nous communiquions en permanence avec notre fille, quelle que soit l'heure, parce que nous avions le wifi à la maison, elle là-bas, c'est aussi tranquille, donc nous communiquions à tout moment.
C'est dimanche, je voulais envoyer l'argent, parce que ça m'est dit déjà, cette réunion était déjà fermée, donc dimanche, au moment où je vais envoyer l'argent, j'appelle quand même pour demander, mais depuis hier, je n'arrive pas à joindre Dina. Elle est où son téléphone à laquelle vous mettez? On cherche Dina. Depuis, je dis, comment ça? Pourquoi vous ne m'avez pas averti? Il me dit que non, vous êtes en train de chercher, dit non. Elle n'a jamais fait ça. Et même pour aller dormir chez quelqu'un, elle ne peut pas dormir ailleurs sans m'avertir.
Jamais.
J'ai commencé à m'inquiéter. Et quelques heures après, on me fait comprendre que non, l'enfant a été retrouvé mort.
La dernière photo, pour essayer de compléter, la dernière image visuelle de son téléphone, elle était, parce qu'on l'a vu un peu comme si elle était bizarre, comme si elle était droguée, comme si je ne sais pas. Donc on lui demande, mais maman, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu fatigué là. Qui est là avec toi? Elle nous montre le téléphone, elle met le téléphone à sa mère comme pour présenter la personne.
Elle n'a même pas eu le temps de parler.
Donc la personne qu'elle a montrée pour dire, mais tu es avec qui? Tu parles avec qui? La personne qu'elle a montrée, qui était à côté de la à proximité d'elle, c'est cette Olivia.
Olivia qui
c'est la dernière personne qu'on a vue, que notre fille nous a montré le téléphone.
Olivia, elle est africaine. Elle n'était pas dans cette ville-là.
D'accord.
Je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée ce jour-là dans l'immeuble même d'où Lina était avec ses frères.
Voilà.
Elle ne restait pas là. Bon, le témoin critique dit qu'il entendait les cris comment la petite Lina criait au sous-sol. Elle criait fortement. Donc, c'est ce que...
Elle se débattait.
Elle voulait sortir. Mais il y avait des gens qui l'empêchaient de sortir.
Voilà.
C'est l'enseignement. C'est ce qu'elle entendait. Effectivement, quand on allait au sous-sol, la police criminelle nous a montré par où Lina est passée. En fait, elle s'est enfuie. Non seulement elle a laissé sa sapin de verre, on n'a même jamais retrouvé ça.
Sapin de verre optique.
On n'a jamais retrouvé ça. Elle a sauté les barrières de 2 mètres.
Sans chaussures.
Donc, c'est qu'elle était poursuivie. En fait, tout s'est passé au sous-sol.
Voilà.
Donc, nous, on s'est dit pourquoi. C'est vrai, elle n'a pas eu. Je ne sais pas si elle dit qu'elle ne voit pas le lien qui se passe entre, parce qu'Ina sort du sous-sol et le Ursine à Cannes. En fait, il n'y a pas de lien. Donc, ils ont fermé cette page-là.
Voilà.
Ils ont juste présenté le seul coupable, c'est Ursine à Cannes. C'est vrai, il est le seul, mais il n'est pas seul.
Il n'est pas seul.
Nous, on a foi en Dieu.
Guy Serge et Jessica Ibunaga, les parents de l'étudiante gabonaise assassinée en mars dernier en Turquie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille ce 10 novembre une conférence internationale sur la gouvernance et la communication. Selon les organisateurs, une communication efficace et une gouvernance transparente dans le secteur public sont essentielles pour le progrès démocratique de l'Afrique à une époque où les progrès technologiques sont rapides. Alexandrine Hologon a joint Kwame Senou, fondateur de l'Institut The Holding Opinion and Public.
Le premier rôle que la communication joue est de convaincre. Puisque les gouvernements travaillent en mettant en place des politiques publiques, ils ont sans cesse besoin de l'assentiment du public, surtout dans les démocraties qui s'opposent aux autocraties, où c'est la volonté du leader qui s'impose. Dans un régime démocratique, le public doit être d'accord, notamment à travers les élections et à travers la confiance témoignée au leader. Et donc, pour que le public soit d'accord, il est important de convaincre ce public à travers des initiatives de communication. Et nous allons, au cours de la conférence, passer en revue plusieurs aspects. Premièrement, les marques publiques. En quoi est-ce que créer une identité, un narratif public clair et distinct permet aux populations de connecter au message du gouvernement? Deuxièmement, nous allons passer en revue les données. Nous observons beaucoup que les données ne sont pas utilisées dans la planification de la communication publique. Nous parlerons également de la technologie, comment la transformation digitale peut rapprocher le service public du citoyen, peut permettre au gouvernement d'interagir avec le citoyen et récupérer des feedbacks et des avis en temps réel. Nous parlerons ensuite des considérations culturelles. On ne le prend pas assez en compte, mais à l'intérieur du continent, il y a différentes cultures qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent et qui ont besoin d'être prises en compte dans la nature de la communication. Et enfin, nous parlerons des crises, qu'elles soient économiques, politiques ou même médicales, comme nous avons pu le voir il y a quelques années.
Quel est le public cible de cette conférence et comment espérez-vous qu'il bénéficiera de cette conférence?
Ce sont des praticiens qui sont en charge de la communication au sein de gouvernements, au sein d'agences publiques, au sein d'entités publiques, mais encore plus intéressant, au sein d'organisations régionales, en ce moment où nous parlons d'intégration sur le continent. Ce que nous espérons, c'est que les interventions de praticiens et d'experts expérimentés pourront former une source d'inspiration et une somme d'enseignement. Et à cet effet, nous avons la présentation introductive qui est donné par Alex Aiken, qui est le directeur exécutif des communications du gouvernement britannique, qui a une très grande expérience en matière de communication publique centralisée, qui vont inspirer nos participants et surtout leur donner envie d'améliorer la démarche qui, elle, est quelque peu discutable parfois.
Kwame Senou, fondateur de l'Institut The Holding Opinion and Public en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
L'ABAD, ou Banque africaine de développement, organise un forum de 3 jours sur les investissements africains à Marrakech, au Maroc, avec la participation des États-Unis. Pour comprendre l'engagement stratégique de Washington pour le développement économique en Afrique, Eric Manirakidza a joint Johan Schmontzis, un porte-parole du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Les États-Unis jouent un rôle très important dans la banque comme bailleur de fonds et aussi pour aider à planifier les projets de la banque. En fait, ici, pendant ce forum, un des sujets, un des objectifs clés, c'est de promouvoir et faire avancer les projets qui sont financés par la banque. Et les États-Unis jouent un rôle dans ce processus de planification.
Quelles sont les principales priorités stratégiques des États-Unis en matière d'investissement en Afrique et comment cela se reflète-t-il dans leur participation à ce forum?
La stratégie des États-Unis dans ce forum est vraiment axée sur la réalisation qu'il y a un écart infrastructurel en Afrique qui empêche la croissance économique africaine. Le gouvernement des États-Unis essaie de s'adresser à ce problème. En fait, la stratégie principale dans laquelle on essaie de s'adresser à ce problème, c'est l'approche des corridors en Afrique, des corridors commerciaux. On a parlé beaucoup récemment du travail du gouvernement américain sur le corridor Lobito, qui va lier la Zambie, Angola et la République démocratique du Congo. Mais ça fait partie d'une stratégie plus large de faire un corridor Transafrique, en fait, pour lier les côtes de l'océan Indien vers l'Atlantique, de Mozambique vers Angola, et pour promouvoir les exportations africaines vers le monde.
Face à la concurrence chinoise et russe croissante, comment les États-Unis prévoient-ils de différencier et de renforcer leur approche envers les investissements en Afrique?
La distinction principale entre l'approche américaine et l'approche de quelques autres pays, c'est que l'approche américaine vise à combler les besoins des peuples africains par promouvoir la croissance économique de façon large sur le continent, partout dans les continents, aussi de lier les économies africaines l'une avec l'autre, les encourageant l'intégration économique régionale partout dans le continent. Et nos activités ici sur le continent envisagent un objectif, et cet objectif, c'est le développement économique du continent, non seulement l'exploitation des ressources.
Johann Schmontzis, un porte-parole du département d'État américain. Ici aux États-Unis, troisième débat présidentiel républicain, mercredi à Miami en Floride. Moins de candidats que lors des précédents débats. Ils ont tenté de se distinguer les uns des autres et du favori Donald Trump. En compte-rendu de Caroline Pressouti, correspondante principale de la VOA à Washington, repris ici par Michel Joseph.
Le troisième débat des candidats à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle diffusé sur NBC a été dominé par la politique étrangère. Interrogé sur le conflit entre Israël et le Hamas, voici ce qu'il dirait au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le gouverneur Ron DeSantis, candidat républicain.
Finissez-en une fois pour toutes avec ces bouchers, le Hamas. Ce sont des terroristes. Ils massacrent des innocents. Ils anéantiraient chaque juif sur la planète s'ils le pouvaient.
Le sénateur Tim Scott, candidat républicain.
On ne peut pas négocier avec le mal. Il faut le détruire.
Nikki Haley, candidate républicaine.
Il n'y aurait pas de Hamas sans l'Iran. Il n'y aurait pas de Hezbollah sans l'Iran. Il n'y aurait pas de Houthis sans l'Iran. Et qui finance actuellement l'Iran? La Chine achète du pétrole à l'Iran. La Russie obtient des drones et des missiles de l'Iran. Et il y a une alliance impie.
Seuls 5 candidats se sont qualifiés pour le débat. Chacun d'entre eux a eu le double du temps de parole par rapport au débat précédent. Concernant l'aide pour l'Ukraine, quelques divergences émergent. Chris Christie, candidat républicain.
Ce n'est pas un choix. C'est le prix que nous payons pour être les leaders du monde libre.
Vivek Ramaswamy, candidat républicain.
L'Ukraine n'est pas un modèle de démocratie. C'est un pays qui a banni 11 partis d'opposition. Il a regroupé tous les médias au sein d'une télévision d'État. Ce n'est pas démocratique.
De nouveau, Nikki Haley, candidate républicaine à l'élection présidentielle.
Nous savons tous qu'un demi-million de personnes sont mortes à cause de Poutine. Et voici un pays épris de liberté pro-américain qui se bat pour sa survie et sa démocratie.
Le fentanyl arrivant par la frontière sud, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu'il irait plus loin que ce qu'a fait Donald Trump durant son mandat. Absent de cette scène, comme pour tous les débats, était le favori républicain. L'ancien président a tenu son propre rassemblement à environ 16 kilomètres de là, à Hialeah, en Floride, où la population hispanique est importante. Jennifer Lawless, présidente du département de politique de l'Université de Virginie, estime que ces candidats ne battront jamais Trump dans les sondages.
Avec Donald Trump dépassant largement les 50% dans de nombreux sondages et plus de 40% dans la plupart des autres, aucun candidat n'est même proche du deuxième. Mais si quelque chose devrait arriver et que Donald Trump soit en prison, soit incapable de se présenter ou soit forcé d'abandonner la course pour diverses raisons légales, celui qui est en deuxième position a l'avantage.
Le temps pour le faire se réduit. Les électeurs éliront un nouveau président dans un peu moins d'un an et le premier caucus de l'État aura lieu dans 2 mois.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia.